consonance.
De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre.
Consonance. Le Grand Sceau. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Fanny Lerest, Rémi Clenet, Colline Ferreira d'Albino et Bertrand Chollet. Quatrième partie sur 6. Paul est un adolescent qui s'est défenestré. Gravement blessé mais vivant, il a été conduit à l'hôpital, puis placé dans une famille d'accueil par un juge, car une enquête a démontré de la maltraitance parentale. Dans cette famille bourgeoise où il est accueilli, Paul fait la connaissance de Mathilde, la dernière fille de la famille, avec laquelle les relations sont parfois houleuses.
Quelques semaines s'écoulèrent et Paul finit par prendre ses marques dans le château. On le trouvait sympathique. C'est du moins ce qu'il ressentait dans ses relations avec ses hôtes, même si elles lui apparaissaient toujours un peu convenues. Quand elle lui souriait, Geneviève plissait toujours les yeux. Paul y lisait comme une forme de tendresse. Henri avait trouvé en lui un interlocuteur qui comblait un peu l'absence de l'autre mâle de la famille, son seul fils qui travaillait à l'étranger, bossant pour une firme américaine où les congés étaient un objet de mépris. Il le voyait peu. En souffrait sans doute. Paul jouait les remplaçants. Ça le surprenait toujours de lire son nom sur la feuille de match quand au soir, Henri rentrait du travail et qu'il disait en le voyant « Ah, Paul !» Le maître de maison l'initia aux fléchettes. Un sport de troisième mi-temps, comme il aimait à dire. Réminiscence de ses années passées dans une université anglaise. Paul se prit au jeu de cette activité qui concluait les repas du soir pendant que Mathilde et sa mère regardaient la télé. Parfois, Mathilde se retournait depuis le divan et lui jetait un regard curieux. Paul apprit que fléchette se disait « dart » en anglais. Un mot qu'il avait immédiatement préféré traduire par « dart », comme le dart des abeilles. Piquer la cible, viser son cul rouge, la bulle intérieure, the bull's eye, juste au centre. Ou au contraire, aligner l'un après l'autre les 20 chiffres dans l'ordre décroissant devint comme un rituel. Il s'arrangeait pour boucler ses devoirs avant le souper. Alors, Henri se levait, posant sa serviette à son côté, toujours le même, à gauche, et se dirigeait vers la petite armoire dont il ouvrait les portes en grand. Puis il sortait les deux jeux de fléchettes et lançait « Une petite partie ?» Au début, Paul avait eu du mal à quitter la table sans se saisir d'un plat à ramener en cuisine, cherchant des yeux un balai dont il ne sut jamais où il était rangé. Mais Fatima, la bonne, déboulait toujours à ce moment-là. C'était à croire qu'elle avait une oreille de chat. Le bruit des chaises glissant sur le parquet suffisait à lui signaler la fin du repas. Il la sentait dans son dos lorsqu'il s'approchait de la ligne des 2,37 m. Petite femme brune et sans âge, dont il aurait été bien incapable de donner la moindre description. Il percevait alors le cliquetis de la vaisselle que Fatima débarrassait d'une main experte, préservant le silence du château, pendant qu'Henri lui racontait une anecdote de ses années d'étudiant, se chauffant les poignets en faisant des rotations. Au moment où il saisissait les fléchettes, Paul se retournait. La table était vide. En son centre, un bouquet. Et puis cette manie qu'avait Mathilde d'allumer une coupelle dans laquelle brûlait du papier d'Arménie. Il savait que Fatima quittait la maison quand il entendait la porte d'entrée se fermer doucement. Parfois, il glissait un œil au dehors pour la regarder s'éloigner avant qu'elle ne se perde dans la nuit. Henri lui avait proposé toutes sortes de défis. Le 501 double out, le cricket, le jeu des départements. Idéal pour réviser sa géographie, avait-il ajouté. Et puis la vache, le killer, le bâtard. Paul ne voulait pas jouer au bâtard, mais il n'en dit rien. Et la première fois laissa Henri choisir. Passé un rapide entraînement, ils commencèrent un Happy Meal. Paul se prit à ce jeu d'adresse rapidement. Il y vit comme une allégorie de la vie. Une cible, comme la roue de la fortune, grippée pour la plupart des gens. Elle ne tournait même plus, déglinguée au point que plus personne n'y croyait vraiment. Mais quand on changeait de point de vue, on constatait qu'elle offrait toujours ses meilleurs scores aux élus, ceux dont les coups sont toujours gagnants. Un sport où ceux-là ne font jamais faute. Là où d'autres, touchant le centre par hasard, espèrent en vain un changement, même minime. La cible était fixée réglementairement à 68 pouces de hauteur, soit 1,73 m, exactement la taille de Paul. Entre celle-ci et la ligne de tir, Henri déroulait un épais tapis, des fois qu'une fléchette tapant sur un des fils de fer qui délimitaient les portions de chiffres ne vienne trouer le parquet. C'est ce qui arriva le premier soir. L'une d'elles revint à Paul comme en plein cœur et se ficha à quelques centimètres de son pied. C'est ce qui arriva à Henri, dont la fléchette, elle, se posa comme une plume tombée d'un nid. Henri, qui s'étonnait toujours de la position de Paul derrière la ligne de lancer, le buste en avant, en déséquilibre, presque à tomber, elle lui rappelait celle d'un ancien élève d'Oxford qu'il avait bien connu. Tu sais que la championne du monde de fléchettes s'appelle Gulliver ? Trina Gulliver ! Ça ne s'invente pas. Bientôt, les vacances d'hiver seraient là et la famille partirait au ski, comme chaque année, dans une station du Valais. Chalet en bois, amis qu'on retrouve, restaurant étoilé, balade en traîneau. On proposa à Paul de venir. Il répondit un peu gêné qu'il en profiterait pour soigner son planté du bâton, comme Jean-Claude Duss. Mais personne ne releva sa remarque. Mathilde lui lança alors un regard suppliant. Le lendemain, Paul revint sur sa décision et dit qu'il avait besoin de voir ses parents et qu'il rentrerait chez lui cette semaine-là. Lui-même avait du mal à croire à son mensonge.
Tu pouvais me le dire en face, tu sais. J'aurais compris que tu veuilles rester seul avec tes parents, que ma présence est un peu envahissante.
Il s'agit pas de ça. Si ici t'es un peu perdu, là-bas tu vas souffrir. Là-bas c'est un monde encore plus à part. Tu vois ce que je veux dire ? Là-bas, le café en terrasse est à 8 euros pour éviter que les gens comme ta famille n'y viennent en vacances.
Dois-je comprendre que tu te soucies de ma santé ?
C'est ce que j'ai appris en voyant tous ces jeunes passer ici.
C'est pour ça que j'ai sauté par la fenêtre, tu vois ? Pour reprendre pied sur la terre. Et toi, tu veux m'empêcher de parcourir le monde ?
Je ne suis plus sûre que cette maison soit la meilleure idée qu'on ait à proposer à des jeunes qui viennent d'ailleurs.
T'en as parlé à tes parents.
Tu penses qu'ils t'aiment ? Tu te trompes. Tu n'es qu'une distraction pour eux. Un peu plus curieux que les autres qui sont passés là, avant toi. Tu vaux moins qu'un grippin.
C'est pas gentil pour eux, ça. Et puis j'ai pas envie de te croire.
Bientôt, tu partiras. Ils t'oublieront. Ils attendent déjà le prochain.
C'est notre destin à tous de partir un jour. Et heureusement qu'on se rappelle pas de tout. Quand tu iras à Rome faire ton école d'art, toi aussi tu oublieras tes copines de classe.
Ce sont des copines de classe, mais pas la classe que tu crois. C'est le genre de classe où personne ne s'oublie, parce que tout le monde se soutient. Ici, on te tolère. À Zermatt, tu seras encore étranger.
Je connais bien ce rôle. J'ai jamais demandé à être adopté.
Aucun de ceux qui n'est passé ici ne s'en est sorti. Aucun.
Comment tu peux le savoir ? Tu fais des statistiques.
Je le sais, c'est tout. Les services sociaux pensent que c'est un havre de paix et d'équilibre, que ça les aide à se reconstruire. Ici, ils pensent trouver une trêve, mais en fait, c'est la guerre.
Tu sais que tu m'inquiètes par moments ?
Si tu viens à Zermatt, tu seras comme une jardinière de chrysanthèmes qu'on trimballe de bonne foi dans les cimetières, à la Toussaint. Le cousin de province à qui on montre la tour Eiffel.
J'ai jamais vu la tour Eiffel.
Je te dis ça parce que je t'aime bien.
Bizarre, c'est pas ce que je ressens.
T'as vraiment envie d'être le petit singe qu'on montre à tout le monde ?
C'est incroyable, tous ces gens qui me veulent du bien.
Tu crois que je te veux du mal ? Mais ici, c'est comme ça que ça marche. Si tu restes, tu vas vivre comme la guerre de sécession. Une guerre civile, et tu vas être coupé en deux.
Tu crois que je fais partie de ceux qui se laissent faire ?
Ah, Ah bah si tu t'en es pas encore rendu compte, je me demande alors comment tu fais pour avoir d'aussi bonnes notes.
Je vis dans un endroit où les choix sont limités et je crois en moi plus que personne. Quand tu as sauté 6 étages et que tu t'es redressé, tu peux aller partout. Même à Zermatt en marchant sur les mains.
Oui, c'est quelque chose que tu partages avec les autres. Avec tous ceux qui sont passés là. Je pensais vraiment que t'étais différent.
Mais nous sommes tous différents.
Non, c'est bien ça qui m'afflige. Vous allez tous dans le même mur. Le miroir aux alouettes.
T'aurais préféré qu'on m'envoie dans une famille de banlieue?
Mais ici aussi, c'est la banlieue.
Ta périphérie est au centre, Mathilde. Et le centre se déplace avec toi. Alors, c'est agréable pour moi de pas avoir le tournis des électrons, au moins pendant un temps. Tu ignores tout de la vie des autres. Et je parie que tu ne sais pas grand-chose de la tienne.
Qu'est-ce que t'as appris depuis que t'es ici?
À jouer aux fléchettes. Et puis à discuter aussi, avec toi. Ça change des silences radio et de la novlangue télévisuelle.
N'importe quoi. La seule personne dont tu sois proche ici, c'est Fatima. Comme elle, t'es un intrus dans cette maison. Encore qu'elle, elle dort pas ici.
J'ai conscience de n'être qu'un figurant dans ton théâtre, Mathilde. Comme Fatima joue les soubrettes. Sous peu, on me poussera par la petite porte, celle qui donne sur la ruelle. Et il sera inutile de me retourner pour taper au carreau, la porte aura disparu. Mais rassure-toi, mes yeux ne sont pas brûlés et je ne verserai pas de larmes. Même pas sur toi.
Mon père a joué aux fléchettes avec tous les garçons qui sont passés ici.
Ouais, mais je serai le premier à le battre.
Oh, tu seras parti avant. Et les bruits sur la cible agacent ma mère, qui ne peut pas suivre son feuilleton.
Ah bon? Je croyais qu'on était chez Mickey, mais en fait, c'est un sitcom ici. Ne me dis pas qu'on est filmé.
Eh, vas-y, balance ton ironie. Comme quand tu toises les autres dans la classe. Mais à la fin, tu perds. Le scénario est déjà écrit.
L'ironie est une de mes armes.
Elle va te péter à la gueule.
Je me demande lequel de nous deux va le plus mal. Si mes darons deviennent famille d'accueil, tu viendras chez nous. Mais je te préviens, chez moi, le seul truc qui mesure 2m37, c'est la voiture.
Mathilde finit par lâcher prise et laisse Paul à son bureau, au milieu de ses exercices de maths et de la disserte de philo à rendre pour le lendemain. Elle conclut par des propos confus, parla d'une hauteur qui dépassait les 6 mètres, une hauteur telle qu'il fallait pas espérer la remonter. Mais Paul ne l'écoutait plus alors qu'elle refermait la porte, en silence, comme il se doit.
Je sais maintenant pourquoi je fais bien de pas aller à Zermatt. Puis, je sais même pas où c'est Zermatt.
Et la semaine de vacances fut là. L'assistante sociale vint chercher Paul qui embrassa chaleureusement Henri et Geneviève, leur conseillant de faire du hors-piste. Il n'avait jamais chaussé de ski, n'avait même jamais fait de luge, mais il avait raconté des histoires de classe de neige dont la véracité avait surpris tout le monde, même Mathilde qui s'était prise à y croire. Au moment du départ de Paul, elle n'était pas encore rentrée de chez une amie. On se salua sans l'attendre vraiment. Paul revint donc chez lui pour une semaine, et dans la voiture qui le ramenait, il sentait déjà poindre un profond ennui. Heureusement que les profs les avaient surchargés de travail. Il retrouva son bureau dans le désordre où il l'avait laissé, presque comme un vieux copain dont on sait qu'il ne vous trahira pas. Le froid s'était abattu sur la région, et plutôt que d'ouvrir sa fenêtre de chambre pour fumer, Paul préféra descendre dans le square où rien ne mentionnait sa chute finale. Pas même une plaque commémorative vissée dans le mur. Il fut déçu. Ce n'est qu'au bout de 2 jours qu'il se rendit compte que son père avait posé une serrure sur la porte-fenêtre. Laës avait regretté qu'il ne parte pas avec sa famille d'accueil. Le grand air lui aurait fait du bien. Paul haussa les épaules en guise de réponse. Depuis sa discussion avec Mathilde, il s'était longuement interrogé sur le bien fondé de sa présence au château. Il s'était même demandé si une autre affectation n'aurait pas été plus profitable. Au fond, il avait l'âge de raison. Le juge pouvait l'écouter. Mais il avait renoncé devant l'idée d'être envoyé ailleurs. Trois lycées différents, c'était trop pour ce qu'il avait à faire. Et puis, il n'avait pas l'intention de laisser gagner Mathilde, qui devait ruminer sa défaite d'être partie seule à Zermatt, car il en était sûr, la première manche était pour lui. En démontant une partie de ses arguments, Mathilde pensait sans doute le soulager d'une épreuve, mais c'était le contraire qui s'était passé. C'était elle qui devait éprouver en ce moment même de la culpabilité, alors que Paul imaginait la voiture grimpant l'école du Valais, et Mathilde assise à l'arrière sous le feu des questions et des reproches. Paul l'avait vu dans le regard d'Henri au moment du départ. Il savait que sa fille avait fait pression avec des arguments qu'il lui faudrait expliquer, mais dont elle ne pourrait pas avancer la moindre justification, au risque de se remettre elle-même en question dans ce monde où, au fond, elle grouillait si bien. Il en savait moins sur Geneviève. Peut-être se rangerait-elle à l'avis de son mari. Mais cela lui importait peu. Et puis, les épreuves, Paul ne connaissait que cela. Il avait cru un temps qu'il plaisait à Mathilde. Il n'aurait pas été contre une relation avec elle. C'était une fille superbe, et dans ce milieu-là, les gens beaux ont la certitude qu'ils le sont toujours plus que les autres. Mais il se ravisa. Par peur de l'échec, tout d'abord. Après une si belle victoire sur la vie, la mort et tout ce qui s'ensuit, essuyer un refus aurait froissé son amour-propre et pu ternir sa gloire. Et puis surtout, il avait peur du ridicule. Non pas pour lui, qui avait tout à gagner, mais pour elle, dans une relation qui deviendrait immanquablement une gêne pour ses parents, et Paul ne leur voulait pas de mal. Et puis ce serait un objet de moquerie de la part des garçons du lycée, qui devaient loger eux aussi dans des bâtisses de fous, et qui prétendaient déjà écrire une histoire avec elle qui, de toute façon, irait de soi. Une histoire où, à aucun moment, il n'aurait une place, à part peut-être aux côtés de Fatima, dans la cuisine. Cette discussion avec Mathilde l'avait quand même un peu secoué. Il se trouvait injuste, alors que Laës garait sa voiture au pied de l'immeuble de ses parents. Que savait-il réellement de cette fille? Ne s'était-il pas trompé? Peut-être qu'effectivement, elle avait usé de tous les arguments pour le dissuader de partir avec eux à Zermatt, car au fond, elle voulait juste se retrouver seule avec ses parents. Sentiment légitime pour quelqu'un dont la vie a toujours été encombrée par les gamins des autres. Paul se promit de lui demander si un jour, elle avait déjà joué aux fléchettes avec son père. La semaine s'écoula. Le juge avait accepté sa requête pour rentrer chez lui. Un psychologue et Laës passaient parfois, notant sur des ordinateurs comment ils voyaient les choses évoluer. La mère de Paul n'avait pas obtenu de congé pour cette semaine-là et compensait en étant aux petits soins pour son fils, lui préparant les plats qu'il aimait, surtout de l'adobo patate. Un truc dégueulasse qui trempait dans la sauce et que Paul, bon fils, n'avait jamais eu le courage de refuser. Sa mère avait pris ça pour un encouragement. Au fond, Paul considérait la cuisine à l'image de cette famille au lien disjoint. Il se forçait et ça se voyait à peine. Le premier soir, sa mère était revenue avec des vêtements de marque, une taille trop grand. Sa mère le voyait toujours plus grand qu'il n'était. Il les enfila en souriant, comptant discrètement le nombre de jours qui le séparaient de son retour au château, où son jean troué et son sweatshirt informe faisaient l'admiration de ses camarades de classe. C'est du moins ce qu'il en concluait avec humour quand parfois on le dévisageait. Revenir au lycée avec des fringues dans lesquelles on aurait vu en lui qu'un parvenu serait comme se coller un autocollant BMW sur le front. Un jour, un des élèves de sa classe lui avait demandé s'il était pauvre. Paul avait pris un regard larmoyant pour lui avouer, presque honteux, que oui, il venait d'une cité mal famée. Parents au chômage, grand frère en prison pour trafic de drogue, sœur faisant le trottoir pour pouvoir acheter du lait maternisé à l'enfant qu'elle avait eu à 15 ans. La vie est dure, tu sais, quand tu passes des hivers sans chauffage. Il avait parlé à voix basse de voitures brûlées, de poubelles qu'on jette par les fenêtres et qui s'entassent sans qu'on vienne les ramasser, des coups de feu la nuit, des rodéos, Sans compter les seringues, qu'on retrouve partout et que les gamins du quartier entassent sur la dalle comme d'autres font des châteaux de sable. Il avait balancé tous ses mensonges en se dandinant d'une jambe sur l'autre et n'avait relevé la tête que pour croiser le visage satisfait de son interlocuteur qu'il avait écouté en silence, puis l'avait quitté rapidement, de peur de choper des poux sans doute. À la maison, si sa mère était si déserte, c'était pour combler les silences du père. Depuis que Paul était revenu, celui-ci jouait aux agents secrets. Partant tôt, rentrant tard, on ne savait jamais où il était. Un soir, il téléphona pour dire qu'il avait du retard sur un chantier. Dans la nuit, Paul se releva pour fouiller dans ses poches, où il trouva une note de frais d'un restaurant où visiblement il avait dîné seul. Et puis, surtout, depuis que Paul était parti, son père avait pris un chien. Une petite femelle épagneule, à qui il faisait la conversation quand, par hasard, il rentrait pour les dîners. Paul obtint l'autorisation de la faire sortir. Il se montra même enjoué à l'idée de la garder une journée entière. Il lui parla longuement, lui aussi. Et puis, il y avait sa sœur, ce petit être qui cherchait sa place. La mère idolâtrait son fils comme si celui-ci était sa revanche sur cette vie de femme trompée. Le père comptait les jours avant son retour dans sa famille d'accueil. Et puis après, il n'y avait pas d'université dans la ville. Il devrait aller plus loin, là où il ne le verrait plus. Restait donc la fille, dans laquelle le père ne pouvait voir une forme de concurrence, mais dont il se serait bien passé quand même, car il n'avait pas l'intention d'être le premier homme de sa vie. Le modèle féminin de la fille aurait dû être la mère, mais celle-ci n'en avait que pour sa propre mère, dont les murs du salon étaient ornés de multiples portraits. Un jour qu'il fallut prendre sa défense dans une affaire d'harcèlement, elle fit comme elle avait toujours fait. Elle ne bougea pas, posant ses mains sur sa tête, espérant que l'orage l'épargne. Puis, elle avait repris le cours de sa vie. Indifférente. Ainsi, chacun regardait ailleurs. Paul par-dessus le balcon, son père vers la sortie et sa mère dans le passé. Restait sa sœur, qui regardait tout le monde sans que personne ne la voie vraiment. Elle ignorait qu'un jour, elle aussi finirait par renoncer. Durant cette semaine, Paul s'abîma dans le travail scolaire, avala 2 romans, se connecta souvent pour savoir si quelqu'un, quelque part, l'aimait encore. Les copains de son ancien lycée avaient répondu. Une soirée était prévue. Paul s'y rendit avec quelques bouteilles pour fêter un retour qui n'en serait pas un. Il ne se sentait déjà plus de ce groupe-là sans être vraiment d'un autre. Il savait qu'il ne reviendrait pas et que les réseaux ne suffiraient pas à garder le contact avec tous. Bientôt, il serait éclaté entre les écoles, les universités, des villes éloignées, à l'étranger peut-être. Il avait cru que la soirée était en son honneur, mais en fait, elle était organisée pour les 18 ans d'un garçon de la classe qu'il connaissait peu. Mathilde lui avait signifié qu'il n'était pas à sa place au château. Il n'était plus d'ici non plus, riant d'anecdotes de classe auxquelles il ne comprenait rien. On lui demanda bien des nouvelles de sa santé, mais c'était furtif. « Je vais bien », était sa réponse. Et elle n'appelait pas de développement. Il s'en voulait d'être un peu distant avec tous ceux qui lui avaient témoigné de la sympathie. Cette fille et ce garçon qui étaient venus le voir à l'hôpital. Qu'il remercia quand même. Il trinqua à la santé des profs, parla beaucoup du château, ce qui laissa tout le monde sans voix. Le silence. Encore. Mais il faut dire que la musique couvrait ses paroles. Il dansa un peu, s'amusa même par moments, avant de constater qu'une chose lui échappait. Son corps, qu'il croyait intègre, ne faisant qu'un, tête, tronc et membres, semblait se disjoindre un peu, comme ces blocs de glace au moment de la débâcle de printemps, comme si le grand sceau avait effectué un travail souterrain de démembrement dont les premiers effets se faisaient à présent sentir. Il le constata quand il faillit chuter alors qu'il dansait. Mis ça sur le compte de l'alcool, mais il n'avait bu qu'une bière, se demanda d'où pouvait venir cette impression de partir en morceaux. Le lendemain, il avait rendez-vous avec le psychologue.
Je constate que tu es un peu moins cynique.
Rassurez-vous, je conserve mon ironie dans des bocaux et mon sentiment de supériorité est resté intact.
C'est pas moi qu'il faut rassurer.
Vous avez déjà ressenti comme des bouts de vous qui s'en vont ?
Peut-être es-tu en train de grandir, de vieillir. Comment qualifierais-tu ces bouts ? Tu peux les nommer ?
J'ai la sensation de ne pas avoir la maîtrise de mon corps. Hier, j'étais à une fête, j'ai dansé, je n'avais pas bu. Hein. Et je sentais que mes membres ne répondaient pas bien.
Tu as consulté un médecin, tu manques peut-être de quelque chose.
Je crois que mon cerveau n'envoie pas les bonnes informations. Par moments, je me retourne et je ne me rappelle pas comment j'ai fait pour arriver jusque-là.
Tu veux parler de ta tentative de suicide ?
Oh non, celle-là, je la maîtrise parfaitement. L'autre jour, je marchais avec le chien, je suis arrivé dans une rue, mais impossible de me rappeler par où j'étais passé. Parfois, on me parle et je découvre que je suis là et que je n'ai rien écouté de ce qu'on m'a dit. C'est comme si quelque chose en moi s'absentait.
Ça fait longtemps que tu éprouves ça ?
Depuis que je suis rentré. Avant, rien. Ça fait comme un éparpillement. Et puis des fourmillements dans les pieds et les doigts. Et des bourdonnements dans les oreilles aussi.
Le corps réagit toujours à une situation qui le contraint. Ça se passe comment dans ta famille d'accueil ?
Plutôt bien. Je m'y sens encore un peu perdu, donc complètement moi-même. C'est difficile à expliquer, mais le fait d'être là-bas me permet de retrouver ma réalité terriblement supérieure. Celle que je pensais avoir perdue en sautant.
Et à la maison, tu as pu en parler un peu, dire ce que tu avais à dire ?
Geneviève et Henri reviennent dimanche. Je retourne là-bas dès lundi.
Tu ne réponds pas. Il n'y a pas eu de changement ?
Paul conclut l'entretien en précisant que le changement ne pouvait se produire que dans la stabilité des choses. Que le changement créait lui-même de la stabilité invitant au changement. L'instabilité, au contraire, était pour lui comme une constante. Quelque chose d'invariant.
Arrivé par le train de nuit, il faisait 0 degrés et de force amoureuse. Il dit qu'il fait chaud, elle dit qu'il fait beau. C'est de là, non Dieu, que pour eux, et mon Dieu, qu'ils sont beaux. Est-ce de la faute à leurs yeux? Elle dit qu'il fait beau, il dit qu'il fait chaud. Ils s'aiment sous la neige. Venus à Venise pour un dernier tango. Ils s'aiment sous la neige. Venus à Venise pour leur dernier tango. Vénus en chemise sous ses roues. On dit qu'elle était prise de ceux qui ont chaud. Quand ils s'aiment sous la neige, il dit qu'il fait chaud, elle dit qu'il fait beau. Ils s'aiment.